de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo et le président Xi Jinping assistent à la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord. Président Joko Widodo rencontre le président Sri Lankais pour discuter de la coopération. Indonésie a souligné la stabilité des frontières nationales lors de la réunion de l'ALCO. SKPT Papouasie exporte du thon frais vers le Japon. Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence pour répondre à l'attaque contre l'hôpital de Gaza. Organisé avec succès, le MotoGP à Mandalika, Indonésie, est prête à ouvrir une école de course. Et athlète de badminton, Gregoria Mariska remporta l'Open du Danemark 2023. Bonjour, tard, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a rencontré le président Xi Jinping au Grand Palais du Peuple République Populaire de Chine le mardi 17 octobre 2023. Au cours de sa visite de travail à Pékin, outre la tenue d'une réunion bilatérale, les deux dirigeants ont également été témoins de la signature de 10 deuxièmes mémorandums d'accord sur la coopération avec le pays. Lors d'une réunion bilatérale, le président Joko Widodo s'est dit convaincu que les bonnes relations entre l'Indonésie et la Chine se renforceront à l'avenir.
Saya meyakini hubungan baik kedua negara kita akan semakin kuat di masa depan, masa yang akan datang.
Je crois que les bonnes relations entre les deux pays se renforceront à l'avenir et nous devons profiter de cette bonne dynamique pour renforcer la coopération bilatérale et accroître la collaboration et la coopération concrète pour la région et le monde. Le mémorandum d'accord signé en présence des deux dirigeants comprenait un mémorandum d'accord concernant le protocole concernant les exigences en matière d'inspection vétérinaire, de quarantaine et d'assainissement pour les produits aquatiques sauvages destinés à être exportés d'Indonésie vers la Chine. coopération dans la mise en œuvre de l'initiative de développement mondial IDG et dialogue avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le président Sri Lankais Ranil Wickremesinghe à Pékin, RTT, citant Tempo mardi 17 octobre 2023, le président Joko Widodo a salué le désir du Sri Lanka de conclure un accord commercial préférentiel PTA avec l'Indonésie. La ZEP est un bloc commercial qui offre un accès préférentiel à certains produits des pays participants. Cela se fait en réduisant les tarifs, mais pas en les éliminant complètement. En dehors de cela, le président Joko Widodo a directement demandé au président du Sri Lanka d'abroger la politique d'interdiction des importations d'huile de palme indonésienne. Le président a déclaré que l'huile de palme est le produit de qualité supérieure de l'Indonésie, produit en prêtant attention aux normes environnementales. Le président a également transmis des opportunités pour les entreprises publiques indonésiennes au Sri Lanka, en particulier dans les domaines de l'achat de wagons de train et de l'impression de passeports électroniques sri lankais, ainsi que de la coopération économique bleue. Le gouvernement indonésien a souligné la stabilité des frontières nationales pour faire face à la question de l'élévation du niveau de la mer lors de la 61e réunion de l'Organisation consultative juridique afro-asiatique ALCO à Nusa Dua, Bali. Le directeur du droit et des accords politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères, Indra Rosandri, a déclaré mercredi en marge de la 61e réunion de l'ALCO à Nusa Dua, dans la région de Badung à Bali, que pour maintenir la stabilité sécuritaire, son parti doit trouver le meilleur moyen de plaider en faveur du maintien de l'accord sur la mise en œuvre des frontières nationales avec les pays voisins. La question de l'élévation du niveau de la mer est l'une des préoccupations des 47 pays membres de l'ALCO, dont l'Indonésie. L'élévation du niveau de la mer peut affecter les frontières extérieures d'un pays, qui sont mesurées à partir du niveau de référence d'un pays. L'Indonésie, qui compte plus de 17 000 petites îles, considérait la montée du niveau de la mer comme une menace réelle. Pour cette raison, l'Indonésie encourage les pays membres de l'ALCO à identifier soigneusement la relation entre le droit maritime et le problème de l'élévation du niveau de la mer. Le Centre intégré de la mer et de la pêche, SKPT, de la région de Biak Numfor, en Papouasie, a exporté mercredi 2,4 tonnes de thon frais vers Narita au Japon. Le chef du service des pêches de Biak Numfor, Effendi Igirisa, à Biak, a expliqué que jusqu'au 18 octobre 2023, les exportations totales de thon frais vers Narita au Japon étaient de 53 expéditions pour un total de 166,4 tonnes. Il a déclaré que les exportations de thon frais du Centre intégré maritime et de pêche de Biak étaient toujours dominées par le Japon. Effendi a expliqué que le thon frais du Centre intégré de pêche et de pêche de Biak est de très bonne qualité et constitue un menu spécial pour les Japonais. Le Centre intégré maritime et de pêche Biak Numfor, en collaboration avec des partenaires commerciaux du secteur de la pêche, continue de s'efforcer d'augmenter le volume des exportations de thon frais en termes de quantité et de qualité du poisson. Le potentiel de thon à nageoire jaune dans les eaux de Biak atteint environ 800 tonnes par an avec des revenus en devise de 17 000 milliards de roupies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, tiendra une réunion d'urgence mercredi 18 octobre 2023. La réunion faisait suite à l'attaque contre l'hôpital baptiste Al-Ahli à Gaza mardi 17 octobre 2023. Selon le communiqué d'un porte-parole de l'ONU, la réunion est prévue à 10h pile, heure locale, et se déroulera sous forme de débat ouvert. Un projet de résolution du Brésil appelant à une pause humanitaire à Gaza sera décidé lors de la réunion. Avant cette annonce, la Russie et les Émirats arabes unis ont eu une appelée conjointement à une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. L'ambassadeur adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré sur sa chaîne Telegram que la Russie et les Émirats arabes unis avaient demandé une réunion publique urgente du Conseil de sécurité de l'ONU dans la matinée du 18 octobre concernant l'hôpital de Gaza. Plus de 500 personnes ont été tuées dans les frappes aériennes israéliennes contre les établissements de santé de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également fermement condamné l'attaque meurtrière. Le directeur principal de Mandalika, SAG Racing Team, Kamal Shah Nasution, citant Parentara, a déclaré mardi 17 octobre 2023 qu'après avoir réussi en tant que coach du MotoGP à Mandalika avec le soutien du gouvernement, l'Indonésie est prête à développer les sports de course en créant le Mandalika. Académie de course, Kamal Shah espère que l'équipe Mandalika SAG Racing pourra collaborer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports par l'intermédiaire du Fonds sportif et de l'Institut de gestion des affaires LPDUK pour faire progresser le sport de la course automobile en Indonésie et soutenir la régénération des coureurs indonésiens. En dehors de cela, le LPDUK par intérim Ferdinand Kamariki Tangkudung a salué le projet de création de la Mandalika Racing Academy. Selon lui, ce plan est une bonne opportunité pour soutenir le développement et le progrès de la course moto en Indonésie. La joueuse indonésienne de badminton en simple féminin Gregoria Mariska Tunjung a battu la japonaise Nozomi Okuhara pour la première fois lors d'une rencontre lors des 16e de finale de l'Open du Danemark 2023 mardi 17 octobre 2023. Citant Tara lors du match qui s'est déroulé à la TIC Arena Odense, Gregoria a gagné en deux tours consécutifs avec un score de 21-11. Et 21-12 dans un match d'une durée de 35 minutes. Sur la base de la déclaration officielle du PPPBSI à Jakarta, Gregoria a déclaré qu'à cette époque, elle jouait assez calmement et n'avait commis aucune erreur. D'après les accords des réunions de la Fédération mondiale de badminton, BWF, Gregoria a toujours perdu contre la joueuse japonaise. Cependant, lors de cette rencontre, Gregoria a réussi à remporter sa première victoire sur Nozomi et à la classer au 29e rang mondial en simple féminin, tout en se qualifiant avec succès pour les 8e de finale de l'Open du Danemark 2023. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Visite du président Joko Widodo en Chine aboutit à un accord de 13,7 milliards de dollars américains ». Vous êtes avec moi, Audrey. Sergio Etard, cette semaine, le président Joko Widodo a effectué une visite de travail en Chine et en Arabie Saoudite. Lundi dernier, le président a commencé sa visite en Chine et se poursuivra mercredi en Arabie Saoudite. En Chine, le président Joko Widodo a rencontré le président Xi Jinping au Grand Palais du Peuple mardi dernier. Outre les réunions bilatérales, les deux dirigeants ont également assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'accord sur la coopération entre les deux pays. La veille de sa rencontre avec le président Xi Jinping, le président Joko Widodo a assisté au Forum des affaires Indonésie-Chine, accompagné du ministre des entreprises d'État, BOMN, qui était ministre de coordination des affaires maritimes et des investissements par intérim, Eric Thohir. Après avoir accompagné le président, Eric Thohir, il a déclaré que le forum auquel le président a assisté avait abouti à un accord de coopération entre les entreprises d'État et le secteur privé indonésien-chinois pouvant atteindre 13,7 milliards de dollars américains, soit environ 215 000 milliards de roupies. Au total, 31 collaborations ont été signées dans ce forum, couvrant les domaines, entre autres, de l'énergie verte, de l'industrie, des batteries électriques, des centrales hydroélectriques, de l'économie et de la technologie. La coopération entre l'Indonésie et la Chine s'est récemment renforcée, notamment depuis la politique du gouvernement indonésien concernant l'avalement du nickel. L'Indonésie ne vend plus de matières premières à base de nickel, mais invite à la place d'autres pays à investir dans l'industrie de transformation du nickel. L'Indonésie veut devenir un pays industriel et faire partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale, étant donné que ses réserves de nickel sont les troisièmes au monde. Même si les États-Unis et l'Europe n'aiment pas la politique indonésienne, la Chine accueille favorablement l'invitation de l'Indonésie à investir dans le développement des batteries de véhicules électriques, utilisant le nickel comme matière première. Aujourd'hui, grâce à la coopération croissante entre l'Indonésie et la Chine, on espère que l'Indonésie pourra immédiatement réaliser son rêve de sécuriser ses ressources naturelles tout en devenant un pays fournisseur mondial. Espérons qu'à l'avenir, cette collaboration pourra également montrer au monde à quel point des relations économiques équitables peuvent bénéficier à toutes les parties. Bon, cher Joëtard, c'est tout. Le commentaire.
Cher Joëtard, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 18 octobre 1931. Thomas Alva Edison décède. Thomas Alva Edison est l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Il est né le 11 février 1847 et mort le 18 octobre 1931 à l'âge de 84 ans. Il a inventé le phonographe en 1877, puis la première ampoule à incandescent pratique en 1979. La plus grande contribution d'Edison à l'industrie moderne est venue de son travail dans l'électricité. Passons maintenant à l'événement du 18 octobre 1967. Une fusée de recherche de l'Union soviétique a atteint Vénus avec succès. La fusée de recherche Venera 4 de l'Union soviétique a atteint Vénus le 10 octobre 1967. Venera 4 était un avion du programme soviétique Venera pour l'exploration de Vénus. Venera 4 a été le premier avion réussi à effectuer une analyse environnementale sur la Terre de notre planète. Cet avion est aussi le premier avion à atterrir sur une autre planète. Venera 4 fournit une analyse chimique de l'atmosphère de Vénus et montre qu'il s'agit principalement de dioxyde de carbone avec quelques pourcents d'azote et d'oxygène et de vapeur d'eau en dessous d'un pourcent. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 octobre 2018. L'application de réseautage social PATH a cessé de fonctionner. PATH, une application qui était autrefois populaire parmi les jeunes Indonésiens, a été fermée à partir du 18 octobre 2018. La fermeture est faite par étapes à partir de la notification qui a été envoyée à ses utilisateurs à partir du 17 septembre 2018. Ensuite, l'application PATH n'est plus téléchargeable sur Google Play Store et Apple Store à partir du 1er octobre 2018. À partir du 18 octobre, PATH ne sera plus accessible pour toujours. En fait, à son apogée, PATH était très populaire auprès des jeunes Indonésiens. De nombreuses personnes utilisent cette application pour partager diverses choses telles que des mises à jour de localisation, télécharger des photos, écouter des chansons, regarder des films, le statut, etc. C'est le temps, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kata-kata, semua mimpi tinggallah cerita. Tiba saatnya kau meninggalkanku. Tak terbayang ku jalani hari sepi sendiri tanpa dirimu. Ku harus sanggup merelakan dirimu. Selamat jalan kau kekasih.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée La ministre indonésienne des Affaires étrangères a discuté de la situation à Gaza avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays amis. Vous êtes avec moi, Audrey. Cher Jeter, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, continue de communiquer avec les ministres des Affaires étrangères des pays amis pour élever la voix afin que des mesures immédiates puissent être prises pour éviter une catastrophe humanitaire de plus en plus grave à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères a mis en ligne la déclaration sur le compte officiel des médias sociaux X, @kemlu-ri, lundi 16 octobre. L'Indonésie et un certain nombre de pays de l'OCI ont également proposé de tenir immédiatement une réunion ministérielle spéciale de l'OCI. La ministre Retno Marsudi devrait assister à une réunion spéciale prévue le 18 octobre à Jeddah, en Arabie Saoudite. Auparavant, sur son compte officiel @menlu-ri sur les réseaux sociaux, la ministre Retno Marsudi a également eu des conversations téléphoniques concernant la situation à Gaza avec plusieurs ministres des Affaires étrangères. La situation préoccupante a été au centre de ses entretiens avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saoud, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, et le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, vendredi 13 octobre. Parallèlement, lors d'une conversation téléphonique avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Hanke Bruin Sloot, et la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, ils ont discuté de l'urgence de protéger les civils à Gaza. Le même jour, samedi 14 octobre, la ministre Retno Marsudi a également fait part des efforts visant à évacuer les citoyens indonésiens. Cela a été exprimé lors des discussions avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge ou du Comité international de la Croix-Rouge Mirjana Spoljarić Eger concernant la détérioration de la situation à Gaza. La ministre Retno Marsudi a également eu un entretien téléphonique avec le ministre malaisien des Affaires étrangères, Zamri Abdul Kadir, le 15 octobre. Les deux ont discuté des derniers développements à Gaza et de l'urgence de se concentrer sur les aspects humanitaires et de sauver des vies. Auparavant, la ministre Retno avait discuté de la question palestinienne avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, également président du Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'une réunion bilatérale à Jakarta le 9 octobre. Bon, cher Joïtar, c'est tout, mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kembali. cinta yang sesungguhnya. Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Seribu bintang berkilau, luruskan hati yang galau. Semoga rasa cinta untukku bertahan lama. Meskipun badai menghadang, ku akan selalu menopang. Ku pastikan
Jolitaire, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la maison traditionnelle Dulu. Rumah Ulu, ou la maison d'Ulu, est une maison traditionnelle à l'amont de la rivière Musi, au sud de Sumatra. Le nom de Ulu vient d'un mot Uluan qui signifie « un village ». Uluan est également un terme désignant les personnes qui vivent dans le cours supérieur de la rivière Musi. Toutes les parties de la maison sont en bois qui est au fond de la maison soutenu par un tronc d'arbre unglen. Parce qu'on pense que l'arbre peut survivre jusqu'à des centaines d'années. La maison de Ulun est également résistante aux tremblements de terre. La conception de la structure de la fondation de la maison sur pilotis d'Ulu est une clé qui permet à cette maison de ne pas s'effondrer facilement lors d'un tremblement de terre. Son poteau est mis sur la tasse de pierre, de sorte que la pierre fonctionne comme une roue. S'il y a un tremblement de terre, la maison ne fait que trembler ou ne s'effondrer pas. La construction de la maison de Oulu doit suivre certaines règles qui ont été convenues. Le bâtiment doit faire face à l'avant de la ligne de circulation de l'eau. Il est destiné à ce que la maison qui est construite puisse être à l'abri des inondations qui surviennent soudainement. En plus de cela, la maison doit suivre le système Oulu-Oulak, à savoir si le terrain qui sera construit une maison encore large et prévoit de construire une autre maison Oulu. La construction de la maison doit être faite à partir de la partie la plus en amont. Le système Oulu-Alak n'est pas seulement la régulation de la construction de la maison, mais aussi la régulation de la place socialement. La maison en amont ou en façade est pour ceux qui sont plus âgés dans la ligne familiale, et ainsi de suite jusqu'à la maison la plus en aval occupée par le plus jeune des descendants. Ce système s'applique également dans la division de l'espace dans la maison. En général, la maison de Oulu est divisée en trois parties. Les pièces avant, centrale et arrière. Les trois espaces sont divisés en plusieurs parties. Certains des noms de pièces de la maison Oulu, entre autres, Garang ou Lintut, Haluan et Kakudan, la salle de Gedongan ou Ambin, et la salle de cuisine. Garang ou Lintut fonctionnait comme un lieu de détente pour les propriétaires l'après-midi après avoir effectué des travaux de routine. La salle de Haluan et Kakudan est une salle spéciale pour se reposer. Haluan pour les hommes et Kakudan comme lieu de repos pour les femmes. Gedongan ou Ambin est situé au milieu. L'emplacement de la surface de cette section est plus élevé que les autres espaces. Cette section est destinée aux parents pour donner des conseils à leurs enfants ou petits-enfants. Au fil du temps, la maison de Oulu est rare de trouver dans le sud de Sumatra. Si vous êtes intéressé de voir le caractère unique de la maison traditionnelle, vous pouvez visiter le musée Balaputra Dewa à Palembang, dans le sud de Sumatra. La forme de la maison traditionnelle est visible dans l'arrière-cour du musée et devient l'une des grandes collections du musée. La maison de Oulu au musée a 200 ans et a été prise du village Asam Kelat dans la résidence Dogan Komering Ilir. Chers amis, c'était la rubrique Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
damai terjaga di paruh untuk aku, kamu dan kita. Seri telah terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik. Karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani kau. Langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est sebuah menara jam. Sebuah menara jam. En français, une tour de l'horloge. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé sebuah menara jam. Sebuah menara jam, une tour de l'horloge. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie des vlogs de Chris. Sortauli a parlé à Chris de la tour de l'horloge en tant qu'icône de la ville de Bukit Tinggi. Bon, écoute.
Kata orang, jam gadang adalah ikon kota Bukit Tinggi. Apa itu jam gadang?
Jam gadang merupakan sebuah menara jam.
Besok kita ke sana.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Sebuah menara jam. Sebuah menara jam, une tour de l'horloge. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Jam gadang merupakan sebuah menara jam. Jam gadang merupakan sebuah menara jam. En français, jam gadang est une tour de l'horloge. Jam gadang. Jam gadang. Grande horloge. Merupakan, merupakan e sebuah, sebuah une menara, menara tour, jam, jam horloge. Kata orang, kata orang, on dit ikon, ikon, ikon. Besok, besok, demain, ke sana, là-bas. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression jam gadang merupakan sebuah menara jam. Jam gadang merupakan sebuah menara jam. En français, horloge gadang est une tour d'horloge. Dans cet énoncé, il y a le mot sebuah, sebuah, qui signifie une. Le mot sebuah, sebuah, est utilisé pour marquer le nombre d'objets qui le suivent. Par exemple, sebuah menara jam, sebuah menara jam, une tour d'horloge. Dans ce discours, l'expression sebuah menara jam indique qu'il y a une tour d'horloge. Chers amis, allez maintenant écouter des exemples d'utilisation du mot sebuah, sebuah, une ou un, dans d'autres phrases. Chris menulis dengan sebuah pena. Chris menulis dengan sebuah pena. En français, Chris écrit utilisant un stylo. Sortauli memakan sebuah mangga. Sortauli memakan sebuah mangga. Sortauli mange une mangue. Chers auditeurs, l'horloge de Gadang est l'icône principale de la ville de Bukittinggi, dans la province de Sumatra occidentale. Sa hauteur est d'environ 26 mètres. L'horloge gadang signifie « grande d'horloge ». Le type de machine jam gadang est le même que celui de la machine à horloge de la tour Big Ben à Londres. Bon, chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kata orang, jam gadang adalah ikon kota Bukittinggi. Apa itu jam gadang?
Jam gadang merupakan sebuah menara jam.
Besok kita ke sana.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Masih salah langkahku, meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu dirimu, ku bertahan. Haruskah ku akhiri?
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Kalimantan Oriental intitulée Sungai Kandilo. La chanson intitulée Sungai Kandilo raconte l'histoire d'un couple d'adolescents qui garde de beaux souvenirs de la rivière Kandilo. Ces souvenirs ont été emportés par les rêves. Mais malheureusement, il s'est avéré que son amant est mort emporté par le courant de la rivière Kandilo. Le sentiment de regret et de perte continue de le hanter. La rivière Kandilo est une rivière qui traverse la région de Pasir dans le Kalimantan oriental. Sa longueur est de 615 km. Cette rivière est une icône touristique de la région de Pasir. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Sungai Kandilo, chantée par Aska. Bonne écoute!
Na na na.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.